Les îles Carteret, situées en Papouasie-Nouvelle-Guinée, connaissent actuellement une situation dramatique. Elles sont condamnées à disparaître à court terme en raison de la hausse progressive du niveau de la mer. Radio Éthique relaye le cri d'alarme d'une jeune étudiante française qui vient de passer quelques mois sur place. Je voulais vous poser une question, Judith Jakubowicz. Comment est-ce qu'une étudiante en école de commerce devient-elle le porte-parole des habitants qui sont des réfugiés climatiques ? Aujourd'hui, vous alertez les médias et vous poussez un cri d'alarme. Quel a été votre parcours pour en arriver là ?
Eh bien, bon, je prétends pas quand même être le porte-parole de ces gens-là, même si c'est vrai que je suis heureuse de pouvoir transmettre une information qui me semble aujourd'hui capitale. Mon parcours, ça a été qu'effectivement, j'ai fait une école de commerce qui est l'ESSEC. Je me suis spécialisée en entrepreneuriat social, donc j'ai un profond intérêt dans tout ce qui touche aux problématiques sociales et celles environnementales aujourd'hui. Et puis par ailleurs, j'ai une grande passion qui est celle de voyager. Donc je souhaitais me rendre en Papouasie-Nouvelle-Guinée pour m'immerger dans une tribu papou. Avant ce voyage-là, j'ai décidé d'aller voir ce bouleversement qui a lieu aujourd'hui aux îles Carteret et d'un petit peu me rendre compte de la situation de mes propres yeux et ensuite de véhiculer cette information pour alerter un petit peu effectivement à ce sujet-là.
C'est déjà très intéressant de vouloir s'immerger dans une tribu papou pendant quelques temps, même 3 mois récemment.
Exactement, exactement. Oui, c'était une expérience vraiment passionnante et un peu fantastique au sens science-fiction du mot, parce que c'est vrai que c'est un mode de vie qui est très opposé de celui qu'on a ici en Occident. Ça a été une expérience fabuleuse, oui.
Comment est-ce que l'on vit, par exemple, aujourd'hui, dans la vie quotidienne, avec un papou ?
Eh bien, écoutez, tout est en fait axé sur la production de vos moyens pour subvenir à vos besoins, en fait. Donc, toute la journée est tournée autour de ça. Donc, au réveil, on dort dans une hutte en bois. On dort sur un matelas en fibre végétale. Ensuite, au réveil, il est temps d'aller laver la vaisselle dans la rivière en contrebas. Vous pouvez prendre votre douche par la même occasion parce que ça ne se reproduira pas forcément de sitôt. Donc, à ce moment-là, vous prenez un petit peu de chair de noix de coco pour vous en faire un savon ou un shampoing d'ailleurs, au choix. Puis, il est temps de d'éplucher les maniocs que vous avez été récoltés un peu auparavant, quelques jours plus tôt, dans vos champs. Éplucher les maniocs, les mettre à bouillir en faisant le feu à la main, manger. Et puis ensuite, il nous reste la journée complète pour soit aller chasser, aller pêcher, récolter justement ce fameux manioc ou ses patates douces, discuter avec ses amis, aller rendre visite à son oncle, vivre sa vie. Et puis le soir, on recommence la préparation du repas et tout est beaucoup articulé autour de ça en vérité.
Et vous avez remarqué un bonheur différent, une convivialité, une fraternité entre les gens différentes? Est-ce qu'on est plus heureux?
Plus heureux, je ne sais pas si on est plus heureux. Ce dont je suis convaincue en tout cas, c'est que le niveau de bonheur d'une personne ne dépend effectivement pas du niveau de développement économique ni de son pays, ni de son foyer, même si j'exclus bien sûr les gens qui vivent dans la pauvreté. Ces gens-là, du moins dans ces tribus en Papouasie, vivent certes à un niveau de développement assez peu élevé au sens économique du terme, mais ils en sont pas pour autant malheureux, c'est une certitude. Ils ont conscience de ce qu'ils ont et ils ont tout à fait conscience de la simplicité de leur mode de vie qui aujourd'hui, en un sens, leur convient parce qu'il leur permet de vivre aussi en communauté, chose qu'on connaît très peu ici. Et je pense que le bonheur, il se retrouve beaucoup dans le fait que, ben, au final, ils passent leur temps en famille à discuter, à cuisiner et à faire les choses essentielles de l'existence.
Donc là, vous étiez du mois de mars au mois de juin et vers la fin de votre séjour, vous avez entendu parler d'un gros problème climatique qui surgissait aux îles Carteret. Vous pouvez nous l'exposer en quelques mots ?
Alors, effectivement, aux îles Carteret, comme d'ailleurs dans d'autres îles du Pacifique, ces îles-là sont soumises à la hausse du niveau de l'océan, qu'on attribue aujourd'hui à travers des diverses études scientifiques au réchauffement climatique. Cette hausse de l'océan qui, pour nous, en France notamment, n'apparaît pas comme très conséquente, est là-bas assez bouleversante, puisque peu à peu, il y a des dérèglements climatiques qui d'abord génèrent des marées géantes qui s'infiltrent dans les terres et qui dévastent entièrement les cultures vivrières des agriculteurs et simplement des gens qui vivent sur l'île. Ensuite, il y a une réduction de l'espace habitable puisque l'eau montant, l'île devient plus petite. On constate aussi de nombreux poissons qui meurent à cause du blanchiment des coraux qui est leur écosystème. Et ça, c'est dû à la hausse de la température de l'eau en surface. Donc il y a aujourd'hui beaucoup de facteurs qui créent un manque de ressources très clair pour les habitants et un manque d'espace habitable.
Il y a un problème au niveau de l'agriculture et au niveau de la pêche, si je comprends bien.
Exactement, exactement. Et donc aujourd'hui, le gouvernement de Papouasie subvient aux besoins des habitants en leur fournissant deux fois par an plusieurs kilos de riz pour qu'ils puissent manger. Parce qu'aujourd'hui, on atteint même des degrés où le cocotier pousse mal, les noix de coco poussent mal aussi parce que l'eau qu'ils puisent devient de l'eau de mer.
Et oui, c'est de l'eau saumâtre à cause de ces grandes marées qui envahissent tout. La superficie se réduisant, ils sont obligés de partir. Qu'est-ce qu'ils vont devenir, ces gens?
Alors écoutez, ils sont effectivement obligés de partir, bien que certains essayent de s'accrocher aux rêves un petit peu utopistes de pouvoir voir leur île surélevée avec du sable supplémentaire, mais malheureusement, je pense que ça ne sera pas possible. Une ONG qui s'appelle Tous les Paysas, qui veut dire en langage carteret voler de ses propres ailes, s'est organisée pour essayer d'aider ce peuple à se relocaliser sur la terre ferme, dans une province de Papouasie-Nouvelle-Guinée qui s'appelle la province de Bougainville et dans l'île de Tinputz. Ça prend du temps et surtout beaucoup d'argent. On parle aujourd'hui d'un besoin de 2 millions de kinas, ce qui équivaut à 800 000 dollars pour aider au déplacement de quatre atolls différents, dont celui des Carterets. On compte environ 1 500 euros pour déplacer une famille, puisqu'il faut, on veut leur attribuer 3 hectares, un pour construire leur maison et avoir une place pour leur culture personnelle, et 2 hectares pour faire ce qu'on appelle des cultures de rente, donc pour qu'ils puissent payer l'éducation de leurs enfants, leur permettre d'accéder à des soins primaires de santé, etc.
Et eux, ils seraient d'accord pour partir? Enfin, ils n'ont pas trop le choix non plus, mais je veux dire, ça poserait pas de problème de s'installer chez les voisins qui les accueilleraient bien?
Alors, il y a beaucoup de problèmes justement à ce niveau-là. Le premier, c'est quand vous êtes jeune et que vous démarrez votre vie et qu'il n'y a plus rien à manger sur votre île, vous dites que c'est la seule solution pour vos enfants pour avancer dans votre vie. Donc là, on sent une motivation de la part des jeunes. Pour les personnes plus âgées, celles-ci, vraiment, dans un grand nombre, moi, quand je discutais avec elles, m'ont dit vraiment, écoutez, moi, j'ai vécu toute ma vie ici, mes ancêtres, mes parents sont enterrés ici, je partirai pas et ça ne me dérange pas de voir la dernière vague, submerger cette île. Pour eux, cette île, c'est une forme de paradis, parce que quand on la regarde, ça ressemble un peu à une carte postale, à vrai dire, des lagons bleu turquoise, des cocotiers partout, des petites cases en bois posées sur du sable fin. C'est magnifique, et ils en ont conscience, ils le savent, et c'est dur de quitter ça. Aussi parce que c'est une communauté entière qui y vit. Lorsqu'il y a des problèmes à aborder, une cloche est sonnée par le chef de l'île et les gens se réunissent par section et discutent, assis sur le sable fin, du problème actuel et comment on va pouvoir le régler. Et c'est des choses qu'ils ont peur de pas pouvoir retrouver aussi sur un continent. Il y aura peut-être plus aussi la partie insulaire, la culture insulaire, mais aussi, il faut souligner que la Papouasie-Nouvelle-Guinée est très variée en termes de culture, extrêmement diverse. Et que de fait, certains rites sont différents au Carteret des rites qu'on trouve sur la terre ferme, par exemple. Tout ça, c'est une perte de culture et donc une perte d'identité qui va s'insinuer pour les gens au-delà même de la perte de leur terre.
Et alors, qu'est-ce que vous, Judith Jakubowicz, vous pouvez faire pour les aider?
Dans l'absolu, peut-être que, je ne sais pas si les Carterets, peut-être que les Carterets seront un peu sacrifiés sur l'autel du réchauffement climatique, malheureusement, mais ce qu'on peut considérer, c'est qu'il y en aura d'autres. C'est qu'aujourd'hui, les Carterets sont peut-être un des premiers peuples à pouvoir être appelés des réfugiés climatiques, mais malheureusement, notamment dans les îles du Pacifique, on va en constater d'autres. Alors, en tant peut-être qu'occidentaux, on pourrait essayer aujourd'hui se sensibiliser à ce que ça signifie, par exemple, de prendre nos voitures tous les matins et du CO2 que ça dégage et du coup des effets néfastes que ça a sur d'autres gens dans la planète. Et puis, à une échelle un peu plus concrète aujourd'hui, ces gens-là, ils ont besoin de fonds parce que, mine de rien, leur île, elle risque de bientôt devenir une Atlantide sous l'océan. Que les gens que ça intéresse et que cette problématique touche puissent contacter la responsable de l'association Tous les Paysas et à leur manière lui venir en aide.
Le site de l'association Tous les Paysas, www.toulelepaysa.org, TULELEPEISA.org. Est-ce que vous comptez y retourner prochainement pour voir où est emmenée la situation?
J'espère, mais vous savez, on dit qu'il sera amené à disparaître d'ici 2015, alors il reste plus beaucoup de temps.
Et au point de vue personnel, pour votre expérience dans votre vie professionnelle que vous allez commencer, qu'est-ce que vous en avez retiré comme enseignement?
Écoutez, ce que j'en ai retiré, c'est que, en un sens, on a quand même de la chance de vivre où on vit aujourd'hui. mais que une logique de solidarité devrait peut-être quand même s'insérer entre les différents acteurs du Nord et du Sud pour qu'on comprenne quand même que nos actes quotidiens ont une influence sur la vie de gens qui se trouvent ailleurs.